François Bernard.
Deuxième partie de C'est pas du vent. On s'intéresse maintenant à la forêt africaine et au commerce illégal du bois. Comment exploiter durablement cette forêt qui est une richesse pour le monde entier ? On évoque la question du bois illégal en provenance des forêts du bassin du Congo avec Jean Bakouma qui est chargé de campagne de ces forêts tropicales pour le WWF et René Nkongo chargé de campagne de Greenpeace Afrique. Ils répondront aux questions d'Anne-Cécile Bra et d'Arnaud Jouve. Mais tout d'abord, un reportage signé Alexia Gaillard.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez d'acheter là ?
Des planches pour faire un placard.
Vous savez d'où il vient ?
Aucune idée.
Vous n'avez pas regardé ?
Non, j'ai vu que c'était du pain noueux, tablette, mais alors l'origine. Mais je crois qu'il y a marqué que c'est forêt contrôlée, responsable, machin, quand même. Origine Brésil. Bon, ben, je croyais que c'était forêt responsable. La dernière fois j'ai pris celle-là, il me semble que c'était ça, donc je sais pas. Je connais pas vraiment les différentes catégories de bois, etc. Ce que signifient les sigles, non.
Je sais pas ce que c'est.
Le bois certifié.
Le bois certifié. Non, je connais pas.
D'abord, je ne voulais pas parce que ça vient du Brésil. Je devais quand même combien de litres de pétrole va avec. Mais puis j'ai vu que c'est certifié que la forêt s'est replantée. Et donc là, j'ai confiance. Là, c'est vraiment une responsabilité politique que ces labels donnent une vraie garantie.
Moi, je prends suivant les essences, donc je fais pas tellement attention d'où ça vient.
Depuis 2007, Saint-Gobain Distribution s'engage à protéger la biodiversité des forêts et à certifier la provenance des bois vendus notamment dans les magasins La Paire. Philippe Delétain est le responsable de la politique environnement bois chez Saint-Gobain Distribution.
Alors, la plupart des approvisionnements de La Paire viennent des forêts tempérées. Pour la partie tropicale, La Paire s'approvisionne relativement peu en Afrique. C'est un choix qui date de quelques années. Pourquoi ? Parce que au début des années 2000, le milieu de l'exploitation forestière en Afrique centrale était notamment pour des acheteurs basés ici en Europe, un milieu où il était pas toujours facile de se retrouver, pas toujours facile de s'assurer de l'origine légale des bois. Donc c'est pour ça aussi que La Paire avait fait le choix volontaire de s'approvisionner, par exemple, beaucoup plus dans des pays comme le Brésil, où La Paire possède des entreprises comme Eldorado, qui sont des entreprises d'exploitation forestière. Et étant des entreprises intégrées, évidemment, La Paire avait un contrôle beaucoup plus important sur ses sources d'approvisionnement.
Alors justement, un consommateur qui va chez La Paire, quelle proportion de bois certifié trouvera-t-il dans les magasins ?
Alors aujourd'hui, d'un point de vue global, La Paire offre entre 60 et 65% de produits certifiés en global, tout compris.
Oui, alors pour ce qui est des forêts tropicales alors ?
Alors pour ce qui est des forêts tropicales, aujourd'hui évidemment on est à un niveau bien moindre que celui des forêts tempérées. Pour une raison très simple, c'est d'une part que la base du travail, ça a été de s'assurer de la légalité à partir de la fin 2007, donc au moment où on a officialisé notre politique environnement bois. Nous ne travaillons que sur des systèmes de certification qui réellement change quelque chose sur le terrain. Et ces systèmes de certification avancent relativement lentement en zone tropicale. Globalement, aujourd'hui, sur le Brésil, nous sommes à peu près à plus de la moitié des produits qui sont issus de l'Amazone qui portent un label de certification. Pour l'Afrique, La Paire achète très peu de produits, mais notamment en parquet, nos produits portent déjà un label. Et pour ce qui est de l'Asie, on est à peu près à 30% de produits certifiés.
En fait, l'effort doit vraiment être fait sur l'Afrique, hein, d'après ce que vous me dites.
Aujourd'hui, l'effort doit effectivement être fait sur l'Afrique. Alors, nous sommes rassurés puisque le syndicat interprofessionnel des exploitants des forêts d'Afrique centrale a annoncé que d'ici à fin 2012, il souhaitait arriver à 10 millions d'hectares de forêts certifiées dans le bassin du Congo. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 million d'hectares. Donc, c'est un objectif ambitieux. Mais il est vrai que quand on étudie à la fois l'avancée des plans d'aménagement dans des pays comme le Cameroun ou le Gabon, mais également toutes les entreprises qui ont annoncé officiellement qu'elles allaient initier une démarche de certification, cet objectif nous semble relativement réaliste par rapport à 2012, à la fin 2012.
Alors Jean Bakouma, aujourd'hui, quelle est la situation dans les magasins, par exemple en France ?
Ben, pour parler justement du cas de la France que je connais parce que je gère, ou en tout cas je coordonne un réseau forêt et commerce dans le cadre du WWF ici à Paris, les informations portées sur les articles en bois ne permettent pas suffisamment aux consommateurs d'identifier l'origine des bois qu'ils ont en face. Donc il y a une insuffisance d'informations. Et récemment d'ailleurs, une enquête que nous avons effectuée sur les bois d'origine africaine ont montré que seulement 10% de ces produits étaient certifiés FSC dans 395 produits enquêtés. Donc il y a un travail de sensibilisation à la fois à faire au niveau des consommateurs, mais aussi peut-être un accompagnement auprès des acheteurs et des vendeurs de bois pour clarifier les informations portées sur les produits.
Oui, parce que même les vendeurs de bois, enfin là on entendait le magasin La Paire, mais on connaît d'autres marques, hein. Il y a Ikea, il y a le Roi Merlin, enfin pour parler des magasins qu'on connaît en France et en Europe, on a l'impression que aussi c'est pas évident de savoir d'où vient le bois. Eux, ils le savent, mais s'ils ont la préoccupation, c'est pas facile de s'y retrouver.
Non, en fait, ils le savent, parce que si vous prenez la filière bois, vous avez la forêt d'abord, le transformateur, puis les traders. En fait, il y a une multitude de traders entre la forêt et l'acheteur, en l'occurrence, par exemple, la grande distribution, ce qui fait que la plupart de ces vendeurs, ils connaissent le dernier trader, mais ils ne connaissent pas le maillon avant de la chaîne d'où vient le produit. C'est ce qui handicape, finalement, la mise en marché des produits facilement traçables. Et c'est sur ce point, je crois, qu'il faut qu'on se batte.
Oui, alors, parce qu'on se dit, les industriels qui importent de grosses quantités de bois, très souvent, ne savent pas véritablement d'où vient ce bois. Enfin, ils ont effectivement des documents douaniers, ce que vous venez de nous expliquer, mais on a quand même très très peu d'informations sur quelle est la part du bois, on va dire, légal, et la part du bois dit illégal.
Exactement. Ben, c'est justement parce que entre le trader et la forêt, il y a une césure dans la chaîne de traçabilité. Un produit peut être acheté au Vietnam, je dirais. Donc on est là au niveau du fournisseur, mais alors que le bois récolté, lui, vient du Cambodge ou peut-être même du Cameroun. Et si vous retrouvez avec une table dont vous avez le plateau qui est fait dans un bois qui venant du Cameroun, alors que les pieds sont faits en un bois venant du Cambodge, vous avez là un problème d'identification de l'origine du bois.
Alors justement, quelle est la provenance du bois qui est vendu en France? Quel est le pourcentage estimé du bois illégal qui arrive en Europe? Vous avez des chiffres?
Alors je vais d'abord vous clarifier. Le bois illégal, on le définit comme étant tout bois qui a été coupé, transformé ou commercialisé en dehors de la législation nationale du pays ou même de la législation sous-régionale et même internationale. Alors, le problème du bois illégal, c'est que les services douaniers sont souvent mal coordonnés avec les services de forêt. La plupart des pays que je connais, des pays africains, ont mis en place des législations qui permettent que quand le bois quitte leur pays, qu'il soit muni d'une attestation, par exemple export. Mais cependant, les douanes françaises, que je connais un peu, demandent ou exigent au niveau du contrôle un certificat d'origine. Or, le certificat d'origine ne reprend pas toujours les informations qui sont dans l'attestation export du pays d'origine. Ce qui fait que, par confrontation des volumes déclarés à l'import et des volumes déclarés à l'export, on a souvent des écarts de 20 à 30%. En France, par exemple, le bois d'origine présumé importé d'origine illégale est estimé à 40%.
40% aujourd'hui de bois qui arrive en France est illégal.
C'est illégal.
pas du vent. Anne-Cécile Bras, Arnaud Jouve.
Une émission consacrée aujourd'hui au bois illégal, importé notamment d'Afrique et du bassin du Congo.
Alors, René Gongo, vous êtes basé à Kinshasa en RDC, au cœur de ce deuxième plus grand bassin forestier tropical du monde, le bassin du Congo. Vous êtes témoin de cette déforestation terrible de ce bassin et en même temps de cette industrie forestière qui se développe dans tout le bassin, notamment en RDC. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu une photographie, nous expliquer ce que représente cette économie, cette industrie forestière dans un pays comme la RDC?
Pour parler de la RDC, il y a actuellement une réforme en cours. Il y a plus ou moins 22 millions d'hectares qui sont sous exploitation, sous demande d'exploitation. Et à cause de tous les débats qui se passent au niveau de l'Europe, on a accentué les réformes. Aujourd'hui, on passe à pratiquement 10 millions d'hectares qui seront exploités de manière durable. Mais en réalité, depuis quelques années...
M'excuse, juste pour qu'on comprenne un petit peu. Ce bassin du Congo, on est sur quelle superficie à peu près?
Ouais, on est autour de 175 millions d'hectares.
175 millions entièrement parcellisés.
Oui.
Voilà. Ouais. Et actuellement, cette activité forestière couvre...
Couvre à peu près 60 millions d'hectares pour le bassin du Congo. Et pour la RDC, actuellement, c'est autour de 20 millions d'hectares. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Il y a une grande exploitation industrielle et artisanale qui est en train de faire du chemin parce qu'il y a une demande de plus en plus croissante du grime, du bois en provenance de cette région. Et malheureusement, sur le plan de l'économie, on ne voit pas l'impact de cette exploitation. Il y a les communautés autour de ces exploitations qui sont toujours dans l'extrême pauvreté. Et quand on voit la contribution au budget national, elle est insignifiante, moins de 1% pour ce qui est du cas de la République démocratique du Congo.
Et pourtant, est-ce qu'on connaît les volumes qui sont coupés et exportés?
Officiellement, on parle de 400 000 mètres cubes par an au niveau de la RDC, mais ça sont des chiffres qui sont avancés par l'administration. Mais il y a beaucoup de bois qui sont de manière frauduleuse et il n'y a personne qui peut vous dire les chiffres.
Alors, qui sont les opérateurs? Qui coupe le bois?
Il y a des grandes, des multinationales qui sont installées. Il y a des grands groupes qui sont en train d'exploiter. Mais au-delà de ça, il y a des filières, des artisanaux qui ont des liens avec ces groupes et des grands exploitants. Et à ce moment-là, on a de la peine à identifier ou à faire la traçabilité du bois artisanal ou d'exploiter de manière industrielle.
Alors justement, moi je vous propose d'écouter un petit son un interview que j'avais fait il y a quelques mois au Cameroun, où j'avais pu rencontrer un responsable de la filière illégale qui nous raconte un petit peu comment ça se passe.
Ici au Cameroun, on travaille de manière indépendante, on ne travaille pas pour le compte d'une société. Bon, on peut racoler une commande à tout exportateur de bois. Et on essaie de faire sa commande et on le livre la marchandise. On n'a pas de papier. C'est très très difficile puisque l'État met en notre trousse les eaux et forêts qui chaque fois sont en train de nous empêcher d'abattre. Donc en principe, nous sommes des voleurs de bois comme ils disent. Aujourd'hui même, ils ont saisi les machines.
Et comment vous faites? Vous arrivez à les récupérer?
Bon, il y a certaines cautions qu'il faut payer. Qu'on passe au ministère des eaux et forêts et on nous dit comment il faut faire. Dernièrement, il y a un Français qui s'est amené ici. Il avait besoin du bois. Il vous donne la commande, vous arrangez le prix, il vous préfinance, vous entrez en forêt, vous abattez le bois, vous tronçonnez en fonction de sa dimension. Maintenant, on rassemble, on fait les colis, on écrit, comme vous voyez, écrit la société, le nom de la société. Quand on écrit le nom de la société maintenant, il est question maintenant qu'on amène le bois sur Douala, au port de Douala.
Et vous arrivez à rentrer dans le port, déposer ça?
Non, si on travaille sans papier, on peut utiliser le papier de quelqu'un qui est agréé. Quand on voit le contrat et tout, ça veut dire que c'est un bois correct. Quand ça sort déjà de la forêt, quand ça va là, ça veut dire que c'est un bois correct, malgré que ce soit scié dans les lignes. Bon, là, il y a toutes les péripéties. Vous savez, il y a tout ce que ça comporte. Avec la sortie du bois... Bon, vous essayez de négocier, il faut dire l'expression, puis on vous laisse passer. Bon, mais entre nous, vous savez que ceux qui travaillent au port sont seuls, il y a les négociants, ceux qui ont le contrat avec le blanc.
Ah,
et puis, les acheteurs, c'est les blancs surtout.
Oui, oui, non. À 90%, tous.
90%. Tous. Et qui viennent avec des petites commandes en fait.
Ah, des grandes commandes, c'est pas des petites commandes. Ah, des commandes de 800 mètres cubes.
C'est des bois qui partent. En général, ça part où alors, ces bois?
Bon, je sais que les sapeliers qu'on a fait, ça partait beaucoup en Chine.
Alors, quelle solution face à cette situation?
Oui, je suis très content de ça, mais en réalité, quand il parle de négocier, c'est de la petite et la grande corruption qui gangrène les systèmes, et c'est partout pareil au niveau du bassin du Congo. Et là, les risques que nous les vivons au Congo, et cette menace de voir les industriels encourager l'exploitation artisanale qui n'est pas vraiment contrôlée. Et cela s'aggrave par le fait que l'administration n'a pas les moyens de sa politique. Et à ce moment-là, il faut signaler que c'est une menace pour les forêts. Il faudrait qu'on trouve des solutions. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la bonne gouvernance. Il est question d'améliorer les services administratifs et on ne va pas éradiquer la corruption, mais diminuer sensiblement cette corruption qui gangrène les secteurs de l'exploitation forestière. Et c'est un cliché, malheureusement, qu'on retrouve dans tous les pays du bassin du Congo.
Alors, vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est que les retombées économiques ne sont pas pour les populations locales. Alors, justement, on a en ligne un auditeur qui souhaitait vous poser une question, Arsène Kombe Kalouma de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Arsène.
Oui, bonjour. Je l'ai bien suivi, là. J'allais poser la question, car la population congolaise, comme il le reconnaît lui-même, est pauvre. Quelles sont les actions que préconisent les ONG telles que Greenpeace pour la faire sortir dans cette situation-là? Parce qu'il y a un problème, et il reconnaît que non, ce n'est pas organisé, et que Greenpeace ne publie pas comme il faut les informations de la valeur réelle du bois. Parce que chez nous, ici au Congo, le ministère de l'Environnement, par exemple, fait miroir, donc miroite un peu comme s'il était parent pauvre, comme l'environnement est pauvre, alors qu'en France, c'est le ministre de l'Environnement et il vient juste après le premier ministre.
Oui, alors donc voilà, en gros, la question d'Arsène, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que ça profite aux populations? Il attend beaucoup de vous, il dit voilà Greenpeace, alors vous faites quoi?
Oui, je pense qu'on se trompe lorsqu'on parle de l'exploitation forestière, on voit seulement le bois. De plus en plus, il faut envisager d'autres alternatives à l'exploitation industrielle du bois. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de raids, on parle de concessions de conservation. Donc il y a d'autres usages qu'on peut utiliser, notamment on peut exploiter les produits forestiers non lignés. Ça veut dire les autres produits autres que le bois. Ça, c'est, je crois, la meilleure solution. Et la forêt, au
ça
niveau du
quoi,
bassin...
Ça veut dire quoi, quel type de produits?
Il y a des lianes qui peuvent être utilisées. Il y a les miels qu'on peut trouver dans ces forêts. Il y a d'autres articles qui peuvent être plus rentables. Et quand on voit l'écotourisme dans ce milieu-là, ça peut plus l'apporter. Et nous disons toujours que nos forêts peuvent plus rapporter en étant debout qu'en état tombé comme on le pense actuellement. Et moi, je me dis qu'il y a possibilité que ces forêts puissent contribuer réellement au développement de notre pays.
Jean Bakouma?
Oui, je pourrais compléter la réponse de René Ngongo. En dehors de faire place à des produits forestiers non ligneux, il y a aussi maintenant, il faut aller vers une exploitation durable, une gestion durable des forêts qui va impliquer les populations locales qui sont autour de ces forêts. Et donc, parmi les mécanismes qui sont en œuvre, c'est la certification forestière qui, celle-là au moins, donne une part aux populations locales de participer à la gestion et de profiter des produits de l'exploitation forestière. C'est peut-être pas parfait, mais c'est en tout cas l'une des solutions qu'on peut envisager.
Voilà pour cette rediffusion d'une émission que vous avez peut-être déjà entendue. C'était le 11 février dernier. On retrouve Dominique Dezonnet maintenant, TerraTech, qui vous présente un organisme qui fait la liaison entre pays en voie de développement et acteurs en Europe de l'innovation agricole.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Jean-Paul Hébrard, notre expert rédacteur en chef d'agriculture et nouvelles technologies, mais aussi initiateur du forum international Tech for Food. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
TerraTech, actu.
En bref.
Des nouvelles de la planète, les éoliennes coûtent cher, on les trouve aussi souvent laides, trop grandes et mal intégrées au paysage, ce qui freine leur implantation, pourtant nécessaire à l'augmentation de la part des énergies renouvelables, Jean-Paul.
Le designer Philippe Stark a créé une nouvelle éolienne individuelle en vente depuis peu. De forme rectangulaire, elle peut s'adapter à tout type de paysage. En fonction de sa taille, elle permet de produire de 10 à 60% des besoins énergétiques individuels.
6 tailles différentes sont disponibles et son prix est estimé entre 300 et 400 euros.
TerraTech, l'entretien.
Tech for Food est un forum international initié par le groupe de presse TV Agri en collaboration avec le Centre National d'Études Spatiales et la Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le monde. Les Tech for Food sont aussi des technologies innovantes pour lutter contre la faim dans les pays du Sud. Imagerie satellite, communication, internet sans fil sont des leviers pour le développement agricole. Tech for Food permet l'échange entre les pays dans le besoin et les acteurs de l'innovation agricole. C'est bien ça l'enjeu, Jean-Paul Hébrard ?
Exactement ça, c'est de mettre en relation en fait des personnes qui ont des technologies qui ont peut-être été développées pour des utilisations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer pour les pays du Sud, et puis des ONG, des groupements de producteurs en Afrique ou ailleurs qui auraient besoin de ces technologies.
On rappelle le chiffre incroyable des agriculteurs à travers le monde, ils sont combien ?
On compte aujourd'hui 1,5 milliard. Au minimum d'agriculteurs sur la planète.
Et pour la plupart, qui ne possèdent pas ces nouvelles technologies.
Ils ont des téléphones, mais aujourd'hui, il n'y a pas une utilisation des nouvelles technologies qui est dirigée vers le développement des agricultures et la lutte contre la faim.
On a tort de penser que ces nouvelles technologies coûtent trop cher aux agriculteurs.
Elles ne coûtent pas cher aujourd'hui. Si elles sont si développées, c'est que justement, elles sont accessibles. Il faut juste, et ça, c'est un peu quelque part la mission que l'on s'est fixée, essayer de rapprocher, d'inventer, peut-être de dévoyer des fois des utilisations pour faire que ces téléphones portables soient utilisés aussi dans le but de la lutte contre la faim.
Il y a aussi l'idée qu'il faudrait ramener un peu les bonnes initiatives et les bons développements à travers ces nouvelles technologies de ce qui se passe dans les pays du Sud.
C'est pas du tout tourner nord vers sud, ça peut être sud-sud ou sud-nord. Effectivement, c'est de se dire, nous sommes aujourd'hui une tête de recherche, une tête pilote quelque part, pour essayer de comprendre comment ces nouvelles technologies jouent un rôle. Alors, soyons clairs, ces nouvelles technologies ne vont pas régler le problème de la faim. Ce n'est pas du tout notre finalité, notre but. C'est juste essayer de voir comment, des fois, faire rencontrer cette offre et cette demande. Alors, il y a des cas très concrets. Hein. L'utilisation, par exemple, des images satellites au Mali va permettre aux Touaregs de pouvoir mieux guider leurs troupeaux vers les zones où, par exemple, il y a suffisamment de végétation. C'est un cas concret.
Il y a le développement durable grâce aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y aurait une sorte d'humanitaire virtuel ou virtualisé à mettre en place ?
Bah, c'est un peu la magie des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a un don d'ubiquité. Jusqu'à présent, s'engager dans une ONG, ça signifiait partir pour un an, être jeune, avoir un CV qui correspond. Demain, peut-être être Tech for Food, ça signifiera consacrer peut-être 2 heures de son temps par semaine pour résoudre un problème technologique à 10 000 km de là, parce qu'il y aura un groupement de producteurs qui aura besoin, par exemple, d'une application pour permettre sur le téléphone portable de pouvoir avoir des informations sur les courses des marchés ou la météo.
Mais concrètement, il n'y a pas que le téléphone portable, il y a aussi le contrôle de l'eau, plein de technologies au service de l'environnement.
Il y a le GPS, mais il y a aussi les capteurs solaires qui vont permettre de plus en plus d'efficience, de pouvoir imaginer des micro-pompes très localisées pour favoriser l'irrigation.
Et vous l'aurez compris, TerraTech, c'est terminé. Merci Jean-Paul.
Merci beaucoup.
Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Pour le forum, n'hésitez pas à visiter www.techforfood.com, c'est bien ça ?
Tout à fait, en un seul mot.
Et si vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonné. C'est la fin de cette série TerraTech de l'été. TerraTech qui a fait au quotidien le lien entre les technologies et le développement durable. Vous pouvez retrouver ces chroniques de Dominique Dezonné sur notre site internet rfi.fr. Lundi, vous retrouvez le duo habituel de C'est pas du vent, Anne-Cécile Bray et Arnaud Jouve qui reviennent de vacances. Leur invité de première partie sera, pour commenter l'actualité, Guy Orange, de l'association Terre Solidaire. Merci de nous écrire quand vous le faites. On n'en parle pas systématiquement dans l'émission, mais on vous répond toujours. On se quitte maintenant. Merci également à Sophie Janin, à Delphine de Dianous, Antonin Dulé et Xavier Gibert.
Même planète.
Même heure.
Alors, prochain rendez-vous, ce sera lundi, selon la formule désormais consacrée, même planète, même heure. En quelle langue aujourd'hui? En français. Et avec, dans l'ordre d'apparition à l'antenne, vous l'avez entendu, Anne-Cécile Bras et Arnaud Jouve.